franceinter.fr.
Voici la rue de presse. Bonjour Alain Jean.
Bonjour.
La presse qui revient évidemment sur Whirlpool, théâtre hier de l'affrontement entre les deux finalistes de la présidentielle.
Ce que le journal L'Opinion appelle ce matin la bataille de la Somme. Le site, le Huffington Post, pose la question. Que les électeurs retiendront-ils de cette journée? Les belles images de Marine Le Pen, mais l'absence de propositions pour le site, ou le courage d'Emmanuel Macron, mais la grosse contestation qu'il a dû affronter. Dans le journal d'Amiens et de sa région, le Courrier Picard, édito de Bertrand Ménel intitulé « Séquence essorage ». Deux conceptions de la politique se sont exprimées devant les salariés menacés, écrit-il en direct sur les médias. Ce fut l'émotion contre la raison, la communication contre la concertation, la politicienne rouée qui arrive avec ses militants, contre le technocrate qui débute sur le terrain. L'éditorialiste rend grâce aux candidats amiennois de ne pas avoir esquivé le débat. À défaut de convaincre ou de rassurer, il n'a pas transigé sur son message ni sur sa méthode. Et il a évité l'écueil des promesses faciles et vaines à la Hollande devant Arcelor à Fleuranges. Bertie Bayard dans le Figaro revient sur cette boucle. De Fleuranges à Amiens, écrit-elle, l'industrie marque les campagnes politiques. D'ailleurs, le parallèle est frappant jusque dans la tactique, souligne-t-elle. Hier, Marine Le Pen a doublé son adversaire à Amiens, tout comme François Hollande, il y a 5 ans, s'était rendu par surprise à Fleuranges. Le Parisien nous raconte effectivement qu'en plein comité stratégique, hier, elle s'est levée en lâchant juste « j'ai quelque chose à faire » et elle a filé chez Whirlpool sans que personne ne soit au courant. Amiens, dit encore le Figaro, est un précipité d'enjeux politiques, le concentré des plus grandes angoisses des Français face à la mondialisation, à l'Europe ou à la désindustrialisation. Un concentré presque chimiquement pur, reprend pour sa part Grégoire Bizot dans Libération. C'est comme si plus de 10 ans après le débat sur le traité européen en 2005, sur ce parking de l'usine Whirlpool hier, s'était donné rendez-vous la France des whists et celle des nonistes pour trancher la question qui fracture la France en silence. L'Europe est-elle une protection ou une menace pour l'emploi et le pouvoir d'achat? Marine Le Pen souhaite reconstruire la majorité de Français qui avaient voté non, mais que propose-t-elle? Vous venez d'en parler. Tout faire pour éviter la fermeture de l'usine, y compris passer par une nationalisation temporaire. Pourquoi pas? Oui, mais la même réponse à toutes les usines de France menacées mettrait son gouvernement dans une situation impossible, relève Bizot. Quant à Emmanuel Macron, il répond que l'Europe ne s'en sortira que par une plus forte intégration. Et c'est la grande faiblesse marketing, dit-il, de son message. Comment convaincre que plus de négatifs, ce que l'Europe représente aujourd'hui, peut au final devenir quelque chose de positif? Alors visite qui tourne à l'accident industriel pour Macron, comme le titre ce matin L'Humanité, ou selfie et démagogie, que les électeurs retiendront-ils de cette bataille de la Somme?
Une autre bataille est à la une de la presse ce matin, Hélène.
Celle des législatives qui intéresse le Figaro. Le quotidien liste les inconnus du troisième tour de cette présidentielle. En Marche peut-il transformer l'essai? Combien d'élus pour le Front National, le PS ou encore les Républicains peuvent-ils imposer une cohabitation au président élu? C'est ce sur quoi ils comptent. François Baroin s'est déjà porté candidat au poste de Premier ministre. Reste à déterminer leur projet législatif et la sacrée divergence en vue. Éric Woerth, déjà auteur d'un nombre incalculable de versions du projet de la droite, nous dit Judith Weintraub, a été chargé de remettre l'ouvrage sur le métier avec a priori l'idée de ne pas dévier du programme Fillon. Mais Xavier Bertrand, dans un entretien au Point, prend le contre-pied de cette ligne, affirmant à l'inverse que ce projet doit être amendé, dit-il. La droite a vocation à être populaire, entendez, à parler aux classes populaires qui ont largement fait défaut dimanche dernier au candidat Fillon. La défaite de François Fillon qui continue de pulvériser son camp. Hier, le député et ancien ministre Pierre Lellouche a annoncé qu'il se retirait de la vie politique après cette campagne présidentielle qu'il a vécue, dit-il, comme une épreuve calamiteuse, dénonçant l'hystérie d'une secte autour du candidat. Il estime par ailleurs incohérente la position consistant à soutenir Emmanuel Macron face à Marine Le Pen au second tour de la présidentielle, avant de faire campagne contre lui aux législatives. Cette lettre au vitriol, vous pouvez la retrouver sur les sites du Monde ou de l'Express. L'électorat catholique divisé pour le second tour, la presse catholique beaucoup moins, semble-t-il. Ce matin, La Croix réagit au mot d'ordre « Macron, c'est non » de la manif pour tous. Le directeur de la rédaction, Guillaume Goubert, offre en regard le programme de Marine Le Pen sur les enjeux familiaux. Sa volonté, écrit-il, de mettre fin à l'automaticité du regroupement familial ou encore de réserver la politique nataliste aux seules familles françaises, aura des conséquences lourdes sur la vie de famille digne de respect. Il conclut, mieux vaut combattre certaines idées d'Emmanuel Macron que de subir l'idéologie frontiste. Même engagement d'Anne Ponce, directrice de la rédaction de Pèlerin Magazine. La volonté de repli et de fermeture de Marine Le Pen n'est pas une option fidèle à l'évangile, dit-elle. Pour moi, Marine Le Pen, c'est non. Et puis enfin, débat de l'entre-deux-tours, parfaitement paritaire mercredi prochain. Un candidat, une candidate, une journaliste, Nathalie Saint-Cricq, et un journaliste, Christophe Jacubizine. Le Parisien vous raconte ce matin comment le CSA a mis le bazar en imposant cette parité. Celle des journalistes s'entend, le bazar pour une parité qui a pourtant été toujours la norme, sauf en 1995.
Pour terminer, rien à voir, un procès qui tourne procès.
Oui, et une leçon de droit administrée ce matin par Stéphane Durand-Soufflant dans le Figaro. Le chroniqueur judiciaire assiste au procès de Francis Holm pour le meurtre de deux petits garçons à Montigny-les-Metz en 1986. Ce double meurtre pour lequel Patrick Dils avait été condamné puis acquitté en 2002. Durand-Soufflant raconte l'audience d'hier où l'innocenté était appelé à témoigner en visioconférence. Il raconte comment ce témoignage a tourné à une nouvelle mise en accusation. La défense s'emploie à salir le témoin, dit-il, jusqu'à lui demander de venir physiquement à l'audience pour... Et en disant « vous le devez aux familles des victimes », dit même un avocat de la Défense. Le journaliste s'offusque et surtout nous explique pourquoi. Si Francis Holm est présumé innocent, Patrick Dils, lui, est certifié innocent. La justice, assène-t-il, n'a pas su hier protéger un homme qu'elle a acquitté. Une leçon de droit. Ben oui, revenir au droit quand tout va de travers.
Merci à vous, Hélène Jouan, pour la revue de presse.